Alors voilà, ça a commencé par là. Il y a eu une volonté de je recommence à zéro et j'aurai une vraie bibliothèque bien classée.
France Culture.
Et puis ça, c'est vraiment une bibliothèque.
Le Book Club.
Banale, j'allais dire de merde, c'est un peu violent, mais moche quoi. Enfin, vous voyez, c'est. Je l'ai depuis très longtemps et.
Dans la bibliothèque de Lola Lafont.
C'est comme si elle était venue avec moi depuis des années, comme si les livres étaient restés. Donc je ne peux pas la jeter.
Marie Richaud.
Voilà, c'est comme celle-là, elle est encore pire. En fait, celle qui est derrière, elle est vraiment pas belle.
On fait un gros bisou à tous les gens qui ont des bibliothèques Ikea, hein, tout simplement.
Mais tout le monde a des bibliothèques Ikea, enfin je veux dire, c'est pas possible.
Être soi-même pour un écrivain, ça n'a aucun intérêt. Écrire, c'est travailler à être tous les autres. Voilà ce que dit la romancière Lola Lafont dans le spectacle qu'elle consacre à son rapport au mot « Un état de nos vies ». Dans cette même création, elle dit ne pas se souvenir de la fin d'un de ses romans préférés, « Confession d'un gang de filles » de Joyce Carol Oates, mais avoir noté quelques lignes et les voici. Quoi que vous fassiez, que vous le fassiez seul ou non, à quelque moment que vous le fassiez, de quelque façon que vous le fassiez, pour quelque raison que vous le fassiez, quelque mystérieux soit le but dans lequel vous le fassiez, n'oubliez jamais que sur l'autre plateau de la balance, il y a toujours le néant, la mort, l'oubli, que c'est vous contre l'oubli.
Oui, je sais pas, j'ai fait retour, aller-retour sur le boulevard. Je me suis dit, je vais les voir, une perche quand même. On est censé monter à quel étage ? Septième. Ok.
Écrire et lire contre l'oubli, ce pourrait être un des fils à suivre dans ce déballage de bibliothèque, mais il y en a beaucoup d'autres, l'importance du rythme, la condition des femmes, la mort ou l'emprisonnement. La romancière multiprimée et traduite dans 20 langues nous ouvre les portes de chez elle à Paris et nous fait parcourir les rayonnages de ses étagères. C'est un endroit où elle voudrait avoir de moins en moins de livres, uniquement garder ce qu'elle aime vraiment. Suivons-la, nous rencontrerons entre autres Georges Perec, Pierre Goldman et Hélène Zahavi.
Désolée, on est en retard. Eh bien, c'est à vous de nous faire visiter l'endroit où sont les livres chez vous. Les endroits où sont les livres chez
Alors.
Vous.
Alors, ici, c'est une bibliothèque vide. Elle est en devenir.
Elle a été installée quand ?
Il y a un mois.
Oh là là. Et vous la préméditez à quelque chose en particulier ou...
Honnêtement, j'ai lâché, quoi. J'ai tout lâché. Là, ça y est, je suis là depuis 4 ans et au début, j'ai vraiment eu vraiment comme des révélations, des belles intentions de nouvelle année. Ça a duré 6 mois et donc maintenant, je suis très modeste. Donc, dans mon bureau, ça sera classé par ordre alphabétique, un truc de dingue. Là aussi, c'est la suite de l'ordre alphabétique.
Ouais.
Et puis, dans ma chambre, c'est la fin. Dans ma chambre, c'est les 2 dernières années.
Et là, ce sera ce qui vient.
Voilà, j'ai tout arrêté.
Le rangement.
Oui.
Alors, si on prend les choses dans l'ordre et si j'ai bien compris, celle qui est sur notre gauche ne doit pas être détaillée maintenant. On doit commencer par le bureau. Sauf à commencer par la fin de l'ordre.
On doit commencer par le bureau.
C'est ça.
Et par celle-là qui va avec, c'est un meuble qui a appartenu à mes parents, qui est vraiment sans aucune valeur, très années 70. Il est un peu communiste parce qu'il vient de Bulgarie, je pense. Bah oui, d'ailleurs, il vient de Bulgarie.
Il est tellement sombre qu'on pourrait presque croire que c'est du fer.
Ah ouais.
Comme il y a une lumière un peu rouge, comme ça. Et c'est 3 rectangles de bois superposés,
ouais.
Totalement remplis de livres, avec quelques livres exposés, une carte postale, un paquet de clopes, des haltères.
Ouais, alors je fume pas, donc c'est les clopes pour les amis.
Waouh, c'est généreux.
Ouais.
Donc ça, c'est la fin de l'ordre alphabétique.
Tout à fait.
On l'évoque quand même ou on commence par le...
Non, on y va. C'est-à-dire que... donc ici, c'était la fin de mes belles intentions et j'ai eu encore cette question que vous verrez, j'ai pas résolu, que l'anglais et le français.
Ah oui.
Donc Zadie Smith est là.
Dans sa version originale.
Voilà, je pense qu'elle doit être dans mon bureau en français. Puis après, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Mais tout a du sens dans les bibliothèques. Et j'aime bien ce meuble parce que l'autre partie est chez ma mère. Et qu'elle a vraiment beaucoup de livres. Et je voudrais vous parler de ça plus tard.
Ah oui.
D'avoir beaucoup de livres ou pas avoir beaucoup de livres.
Plus tard ou maintenant ?
Ou plus tard ou maintenant ?
Ouais.
Maintenant. Moi, j'ai peu de livres, je pense, pour une autrice. Et j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu as peu de livres ? Eh bien, parce que, en fait, je ne peux garder que ceux que j'aime. Donc, je les donne. Mais j'ai grandi dans un appart de fou de livres, mes parents. Et c'est envahissant, et c'est magnifique, et intimidant. Et donc j'ai choisi un petit peu la petite route.
Quelle est la mesure entre un peu aimé, beaucoup aimé, ou essentiel à garder? Parce qu'il y a des livres avec lesquels on a passé un bon moment.
Ouais.
Et on va dire, il y a des livres avec lesquels éventuellement on veut se faire incinérer ou enterrer. Enfin, il y a ce genre de gap.
Bah, allons-y.
Non, mais à quel point ils ont besoin d'être aimés?
Pour être ici, dans cet appartement, ils ont besoin d'être un peu aimés. Mais si vraiment je les aime pas, ils sont pas là.
Est-ce qu'ils ont besoin d'être lus?
Ah bah oui. J'ai néanmoins une petite étagère de « je vais te lire bientôt ». Et « je vais te lire bientôt », mais voilà, on fera ce qu'on peut.
Je n'ai pas de temps pour toi tout de suite.
J'espère quand même, mais je suis dans une relation polygame et il faut que tu comprennes qu'on ne pourra pas se voir tous les jours.
Voilà. Marcelin Caillou de Sampé, dans une très vieille édition, qui est posée sur le... On en dit un petit mot?
On en dit un petit mot, ouais, parce que... c'était à mon père. Il est scotché, donc il a été abîmé par des enfants maladroits et brutaux. C'est moi.
Bonsoir,
c'est moi. Et j'aime tellement ce livre, Marcelin Caillou, que je l'ai fait lire à des amis et certains ont moins ri que moi et ça m'a peinée.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez détailler de ce premier meuble?
Il y a l'édition en japonais de Chaviré. Ouais.
Qui est un de
voilà, de mon avant-dernier roman, que j'aime bien. J'aime bien la couve, donc je l'ai mis là. Il y a le recueil de photos de Kate Barry, dont je suis très heureuse d'avoir fait la préface et que j'ai découverte vraiment en écrivant dessus. C'était la première fois que je travaillais sur de la photo. J'aime beaucoup ce livre. Et puis il y a une photo, évidemment, de Fifi Brin d'Acier. Parce que qui ne considère pas Fifi Brin d'Acier comme un modèle?
On poursuit?
Oui.
Allez, c'est vous qui me dites.
Alors, donc on va faire par ordre. Donc là, on est dans mon bureau. C'est l'endroit du fétiche total, ici, où j'ai peur de changer beaucoup de choses. Donc je pense que ceci explique cela. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une curieuse chose qui est le prix France Culture Télérama.
Hey, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce livre qui court?
C'est que ça.
C'est vrai, vous avez obtenu ce prix.
Ouais.
C'était en 2021.
Ouais, c'était pour Chaviré. Et la première fois qu'on me l'a donné, parce que donc j'en ai eu, c'est je l'ai cassé. Donc ils me l'ont redonné. Ça m'a fait très plaisir parce que d'habitude on vous donne
des sous
ou alors un stylo ou rien, l'honneur. Voilà, donc j'aime bien l'idée que les livres de poche sont mélangés au grand format. J'ai une très vieille version de Lolita de Nabokov, par exemple.
Vieille parce qu'elle vous a suivi longtemps?
Eh ben, elle était à mes parents.
Ah waouh. Wow,
ouais, donc je la garde.
La couverture, elle est incroyable.
Elle est incroyable, non?
Incroyable.
Ouais.
Donc, elle est complètement déchiquetée, mais surtout ce qui est fou, c'est qu'il y a le visage sur la couve.
Ouais, un dessin. Et sur le dos de l'édition,
la
nuque et les cheveux.
Ouais.
Et je trouve que le dessin est assez dingue. Il y a des livres qui ont été très importants pour moi au début de l'âge adulte. Non, peut-être fin d'adolescence, puisque je venais d'une famille de gens qui lisaient beaucoup, beaucoup.
Ça veut dire quoi,
deux profs de littérature française, un papa chercheur 18e-iste, ça lit beaucoup. Et donc moi je faisais de la danse et j'ai réintégré l'écrit au travers de ce que j'écrivais moi, comme ça, mais aussi avec l'intelligence qu'a eu mon père de m'offrir des jeunes auteurs vivants, nord-américains souvent. Et qui m'ont déplacée, en fait, ou qui étaient un peu punk, où je me suis dit, ah, mais oui, tu peux trouver quelque chose là-dedans. J'étais assez réfractaire à tout
ça. Est en effet assez subtil de la part de votre papa, parce que 18e-iste et chercheur, il vous a ouvert un autre chemin.
Ah, ben complètement, oui. Il a.
Comme qui?
Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, elle, je l'aime énormément, c'est Laurie Moore.
À l'Olivier.
Ouais. Il y avait Marie Gaitskill, qui était aussi à l'Olivier, que j'aimais beaucoup. Et je me souviens d'un bouquin que j'ai aimé parce que la première phrase, c'était « Plus tard, je voudrais être une catastrophe ». Alors ça, c'était parfait, en fait.
Vous avez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 16 ans, 17 ouais. ans, et c'était dans la ligne de...
de votre plus tard.
De mon plan de plus tard.
On se décale un peu ici.
Ouais. Une vieille édition de Pérec, un vieux poche en fait.
Espèce d'espace.
Ouais. Là, il y a un tas de livres. J'ai un peu rangé parce que vous veniez. C'est des traductions de mes romans. C'est génial d'être traduit. Mais alors, j'avance un tout petit peu dans
vous
le couloir.
Les mettre.
Mais là, en fait, il y en a. Mais il y a toutes les langues.
Mais c'est trop beau, non?
Oui. C'est très beau, mais je ne sais pas quoi faire.
Bah, gardez-les.
Je les garde. Et j'en ai donné à la aux bibliothèques de la cité. International. Ils sont venus prendre. Donc, une vingtaine, ouais.
C'est vertigineux.
C'est vertigineux. Wow. Ouais. Ça a presque pas de réalité, en fait. Ça n'a pas de réalité. Mmh. Mais c'est ça qui est bien, en fait. Parce que si ça avait une réalité, ça serait bizarre.
Du reste, les livres rendent cette réalité un peu tangible.
Oui,
si vous
oui,
mettez
oui,
dans
oui,
un
oui,
placard mais... super haut à la fin.
Alors, dans le coin du bureau...
Dans le coin, alors, dans la plus moche des bibliothèques de cet appart.
Là, vraiment, la vieille Billy, qui, à mon avis, n'existe plus tellement, elle est anti-écologique.
Ça demande à être vérifiée, mais...
Je pense quand même que là, on est sur du lourd.
On fait les choses pas vraiment dans l'ordre, puisqu'on est du côté des B, Lola Lafon. Ah. C'est que là, je vois du... Je
oui,
vois
non,
du...
non, j'ai une explication.
Ah,
oui. C'est qu'ici, c'est pas des romans.
Ah.
C'est de la poésie, de la musique et de la non-fiction. Ah, voilà, il y a une explication. Mmh. Et alors là, il y a des choses étonnantes, je vous l'avoue.
Allez.
Je suis prête à sortir quelque chose d'étonnant.
Allez.
Alors, c'est les gens qui me connaissent bien qui m'offrent des trucs comme ça. Le photographe William Wegman, qui ne photographie que des braques de Weimar, que des chiens.
Mais des chiens, enfin, il faut chiens. Quand même dire aux gens ce que c'est pas des chiens des dans la campagne.
Non,
c'est des chiens en train de faire du bricolage, en train d'avoir un sac à dos, en train de lire le journal.
Voilà, j'aime beaucoup son œuvre. Il y a beaucoup de livres de danse.
C'est quoi les livres de danse ?
Alors, les livres de danse, il y en a sur la comédie musicale, il y a un livre sur Nouréef.
Beaucoup de livres sur... des livres de
oui, vous voyez, il y a eu le très beau livre de Ariane Dolphus sur Nouréef. Par là, il doit y avoir pas mal de livres dont je me suis servie pour écrire mes livres en doc. Oui, par là, je pense. Je
sais. Ça tient une part importante dans votre vie de lectrice aujourd'hui ? La lecture qui concerne...
Ouais.
Le fond oui. documentaire de vos,
très,
de vos romans.
Très importante. C'est toujours une question de savoir si je vais les garder ou s'il faut faire terre brûlée. Les recherches que vous faites, les relire, ce serait bizarre. Voilà. C'est, et là, alors là, il y a une toute petite... Ça, c'est un meuble que j'ai trouvé dans la rue, que j'aime beaucoup. Bon, il y a longtemps, il y a 4 ans. Alors, ceux-là, là, c'est... pour certains, c'est vraiment...
Les essentiels.
Les essentiels, ouais. Parce que vous voyez, je vous ai... On va en parler, mais il y a « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France » de Pierre Goldman. Il y a « Le mur invisible » de Marlène Haushofer. Bon, il y a Musset, parce que j'aime énormément Musset. Et il y a le « Mon père », parce que mon père a écrit un roman dans les années 80. Et voilà, « Crébillon sur Danube
». Voilà. Il y a 10 livres.
Ouais.
C'est pas beaucoup, hein.
Non, c'est pas beaucoup. Hein. Non, non.
Il y a Mémoire d'une jeune fille rangée.
Qui a été très important à 14 ans.
À 14 ans ?
Ouais, un peu trop tôt pour eux. Je pense que j'ai pas tout compris. Je l'ai relu plus tard.
Il y a quand même un petit livre de sorcellerie. Fragment
d'un discours. Ouais. Non, mais c'est pas forcément...
Ça aurait pu être un autre ? De Barthes, ça vous voulait dire ?
Oui, ça aurait pu être un autre. Ouais. C'est un peu un... Ça aurait pu être un autre. Et puis, ça a pas forcément à chaque fois un sens... Mais quand même, je réalise que il y a Diderot. Non, il y a quand même un truc. Et dans cette bibliothèque où il n'y a que de la non-fiction et de la poésie et des choses comme ça, il y a des dictionnaires. Et maintenant, je n'ai plus de dictionnaire physique parce que je suis accro au CNRTL.
Mais...
C'est plein de dictionnaires réunis sur un site. Enfin, c'est ça. Ouais,
ouais,
hein.
Comme une grande encyclopédie.
Une énorme ouais. encyclopédie extraordinaire où vous avez tout, l'étymologie, synonyme, antonyme,
définition
évidemment. Voilà, et je pense que quand on commence, c'est fini. C'est fini.
France Culture.
Où est-ce qu'il y a d'autres livres dans cette maison?
Alors,
Le book club.
On va continuer. On va... Donc, le placard avec les traductions.
Avec les traductions cachées.
Dans la bibliothèque de Lola Lafont.
Et là, c'est ma chambre. Et dans ma chambre, il y a...
Marie Richeux.
Il y a eu une volonté quand même de rangement.
Clairement.
Ouais, hein,
on est dans un autre niveau de bibliothèque, là.
Oui, voilà.
Alors, il faut dire pourquoi. Il y a plusieurs... Bon, il y a un vrai dessin de bibliothèque conçu pour accueillir
poches,
à certains endroits des poches, à d'autres endroits des livres d'art, à d'autres endroits des grands formats. Même, il y a presque même un petit coin revue, on peut dire, Lola.
Ouais, il y a un petit coin revue. J'ai été très, très méticuleuse. Et maintenant, ça y est, c'est le bordel. Parce que je suis passée à l'autre.
Ah, oui.
Donc maintenant, ça y est, j'ai lâché. Ici, c'est fini.
Est-ce que vous consultez votre bibliothèque? Est-ce que vous avez un usage? Par exemple, ce qu'on est en train de faire là, la regarder?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Si je cherche quelque chose, oui. Oui. Mais en fait, je ne relis pas énormément quand même. Je cherche des choses précises, des extraits, des moments, mais je ne relis pas de A à Z.
Pour le travail ou pour vous?
Bah alors, c'est compliqué parce que le travail, c'est moi, en fait. Donc, je n'ai pas de travail. Enfin, ou alors, je travaille tout le temps. Voilà.
Alors, est-ce qu'on a oublié un coin avec des livres ou est-ce qu'on retourne à notre point de départ?
Non, on retourne à notre point de départ.
J'ai pas tant de livres que ça. Et je me dis que je devrais encore l'alléger.
Vous voyez?
J'ai peur de... En fait, je pense que c'est un rapport à l'écriture qui transparaît dans cette obsession. C'est-à-dire que ça veut pas du tout dire que je prends pas ça au sérieux. C'est pas du tout ça. Mais c'est une posture toujours peut-être de doute.
Ah, c'est ça. Ah, j'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé avoir de la place pour écrire, avoir de l'air pour écrire.
C'est peut-être ça.
Avoir de l'espace,
mais
juste.
Peut-être. Mais il y a quelque chose aussi de... attendez, je ne suis pas installée là-dedans. Moi, je pense qu'il y a toujours ça, en fait. Je ne suis pas installée dans... J'allais dire... je ne peux pas dire ce métier, cette chose. Mais bon.
On passe au livre étape?
Ouais.
Allez, donc. Alors, en fait, on les a rencontrés à plein d'endroits dans les bibliothèques qu'on a regardées. Ils sont où, tous ces livres-là?
Dirty Weekend de Hélène Zahavi, il est là dans le salon.
Ok.
C'est un poche. Oui, parce qu'il les aide, exactement, voilà. Oui. Et Pérec aussi, il est P. Et P et Z, c'était la même, vous voyez?
Oui, mais alors, si je peux me permettre, on a vu Pérec dans le bureau, et je sais qu'il y a W ou le souvenir d'enfance ici.
Oui.
Peut-être qu'il y a W, non, je sais pas.
Non, parce que...
Il est bazar, quoi.
Quel problème j'ai eu avec Pérec? Je pense que j'ai peut-être eu un problème de Georges et de Pérec, et que j'ai lâché... À un moment donné, je me suis dit, Georges est avec moi dans le bureau, j'ai envie que Georges soit avec moi, et Pérec dans le salon. Oui. Et là, on a, dans les extraits, du coup, Marlène Haushofer, elle était dans les livres très précieux. Oui. Et Joyce Carol Oates, c'était effectivement dans le bureau.
Ouais.
Vous avez choisi de lire Blonde.
Ouais.
Et il y avait un endroit assez peuplé de Joyce Carol Oates dans la bibliothèque du bureau.
Mais pas tant que ça par rapport à tout ce qu'elle a écrit.
Pas tant,
hein. Pas tant que ça.
C'est vrai.
Ouais.
Une huitaine.
Oui.
Bon, alors là, on est rendu dans cet exercice qui a été peut-être difficile ou pas, je ne sais pas. On vous a demandé de choisir 5 textes. Vous en avez choisi 6, Lola Lafont.
Oui. C'était dur.
Ouais, ça devait être dur. Je ne sais pas, en fait. C'était dur.
À un moment donné, je me suis dit que pour être parfaitement honnête, vous voyez, on n'est pas honnête du tout, il faudrait que je mette un roman d'enfant, enfin, un livre jeunesse. Parce que, mais je veux dire, c'est vraiment une étape.
Ouais.
Il y a des romans qu'on a lus quand on était enfant qui sont des moments de plénitude, de bonheur physique qui sont incroyables, qu'on a beaucoup de mal à retrouver, quand même.
Donc, parmi ces textes-là, on choisit un ordre chronologique.
Oui, on va essayer.
Alors, le premier texte, c'est « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, paru en 1975 au Seuil, et qui est signé Pierre Goldman ». Est-ce que vous voulez d'abord lire un extrait ou d'abord nous dire pourquoi vous avez choisi d'évoquer ce texte?
Je vais le lire.
Ouais.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire la prison? Est-ce qu'on peut dire les larmes lentes et secrètes après l'extinction des feux parfois? Est-ce qu'on peut dire l'amitié des voyous et des assassins, des voleurs? Est-ce qu'on peut dire la détresse, la fierté, la superbe des vieux caïds enfermés qui répètent inlassablement la litanie de leurs exploits passés ou qui n'en parlent jamais? Est-ce qu'on peut dire l'attente et le temps? Est-ce qu'on peut dire le claquement quotidien des barres de fer sur les barreaux quand les matons en effectuent la sonde? Est-ce qu'on peut dire « Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance » Est-ce qu'on peut dire « Goldman avocat, Goldman parloir, Goldman extrait, Goldman dentiste, Goldman échange fouille, Goldman passager hôpital, Goldman visite médicale, Goldman prétoire ?» Est-ce qu'on peut dire les femmes qu'on regarde du fourgon cellulaire et qui tordent le plexus de douceur, de douleur? Est-ce qu'on peut dire les revues pornographiques « Je veux pas oublier comment c'est fait, le sexe d'une femme » Est-ce qu'on peut dire l'humiliation de se masturber? Est-ce qu'on peut dire la terreur de l'absence progressive de désir, d'érection? Est-ce qu'on peut dire les avocates « Bonjour maître, elle a un sexe sous sa robe » Est-ce qu'on peut dire l'excitation des transports au palais avec escorte spéciale réservée aux prévenus considérés comme dangereux? Est-ce qu'on peut dire le regard des gendarmes « C'est un tueur » Est-ce qu'on peut dire le regard des autres détenus? Est-ce qu'on peut dire SHS, HS, MS, AS, DPS, super haute surveillance, mœurs spéciales à surveiller, détenus particulièrement signalés? Est-ce qu'on peut dire les durs qui reviennent du parloir brisé, éteint, silencieux, parce que leur femme ne viendra plus? Est-ce qu'on peut dire les portes des cellules qui retentissent la nuit sous les coups furieux d'un détenu affolé qui n'en peut plus? Est-ce qu'on peut dire les pendaisons? Est-ce qu'on peut dire il y en a un qui s'est accroché, il est mort en déchargeant? Est-ce qu'on peut dire les promenades? Est-ce qu'on peut dire les dimanches et les jours de fête, pas de courrier, pas d'avocat, pas de parloir, rien? Est-ce qu'on peut dire les matons, la haine, la sympathie, le mépris, l'estime, la méfiance? Est-ce qu'on peut dire « Chef, ça va pas en ce moment, je deviens fou » Est-ce qu'on peut dire l'amère chaleur et la chair de poule de ces misérables dialogues qui consolent le soir au moment de la fermeture des portes, après le courrier, avant la nuit? Est-ce qu'on peut dire « Descendez de la fenêtre, non, j'ai le droit de respirer » Est-ce qu'on peut dire « La prochaine fois, je vous prends à parler au tuyau, je vous aligne, alignez-moi si vous voulez, vous voulez peut-être que je parle au mur » Est-ce qu'on peut dire le sang qu'on va donner 4 fois par an pour boire un quart de vin et respirer l'odeur des femmes, des infirmières? Est-ce qu'on peut dire les cellules de super haute surveillance, l'isolement, la solitude? Est-ce qu'on peut dire la solitude?
Bon, ouais. Quel texte?
Quel texte?
Ah ouais.
Quel texte? C'est un livre extraordinaire en 2 mots, puisque toute la première partie... est consacré à une tentative d'autobiographie, et puis que la deuxième partie est consacrée à sa propre défense pour son procès, c'est-à-dire qu'il reprend toutes les pièces du dossier et il fait sa défense.
On peut replacer très rapidement l'affaire Pierre Goldman ?
Oui, Pierre Goldman a été accusé dans une affaire de braquage, il a été accusé du braquage et de meurtre, il a été acquitté. Et puis il est mort, assassiné dans la rue à Paris par des... Faut que je trouve le mot, par l'extrême droite, par des barbouzes vraiment en fait, au nord de la police. C'est compliqué parce que sa vie peut effacer l'œuvre, que la personne peut effacer l'œuvre. Et moi je voudrais vraiment parler de l'écriture et je pense que le passage,
on l'entend,
c'est une écriture, c'est quelque chose qui est à la fois... Il y a quelque chose de houleux, il y a vraiment comme une houle, et en même temps, c'est tranchant, il n'y a rien de trop, c'est très musical, et puis c'est impitoyable, en fait. C'est sûr que c'est aussi un livre sur la prison.
Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il passe son temps dans le passage que vous venez de lire, Lola Lafont, à se demander rhétoriquement si on peut le dire, et pas rhétoriquement, on imagine. Et en se demandant si on peut le dire, il ne fait que ça, le dire, et plus le texte avance, et plus on a les images d'une rétention.
Ouais, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que la scansion, en fait, du texte produit une sorte d'accumulation qui fait que peu à peu, comme vous dites, on ne peut plus le dire, on ne peut plus le dire, et on ne peut plus y rester. C'est curieux, hein, ce texte. C'est un texte dans lequel, à la fois, on est enfermé avec lui, et en même temps... On ne veut pas sortir de ce texte. Je trouve très important de le réhabiliter comme écrivain. Vraiment. C'est ça qu'il a fait, en fait. Hein. C'est important.
On passe à un autre texte que vous avez envie d'évoquer.
Alors, chronologiquement. Dirty Weekend d'Hélène Zahavi.
Alors
ça, c'est un... C'est le roman... alors, je pense que ça a paru dans les années 90.
C'est 91 aux États-Unis et traduit en 92 par Jean Esch pour Libretto. Il a été réédité en 2019. Okay. Mais donc, vraiment début des années 90.
D'accord. J'ai lu un petit peu plus tard. Alors, c'est un drôle de livre aussi parce que Hélène Zahavi, l'autrice, elle a simplement, j'ai envie de dire, inversé les lois du polar. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une tueuse qui va tuer des hommes. Que des hommes. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça a créé un scandale incroyable en Grande-Bretagne quand ça a été publié. Mais vraiment, je pense que l'affaire a été portée au Parlement. Enfin, je sais pas, ça a été une discussion. Les conservateurs trouvaient ça honteux, ont trouvé ça obscène. Ah oui, c'est complètement une fiction, c'est un roman. Et elle a fait quelque chose de très fort. D'abord, il est merveilleusement écrit. Merveilleusement, c'est peut-être pas le bon mot, là, parce qu'il y a des descriptions de meurtres tout le temps. Mais en fait, elle a fait un truc qui est dingue. Elle nous renvoie ce que c'est la norme, enfin ce qu'on lit, c'est-à-dire que tous les romans policiers présentent un homme qui assassine des femmes, et on a des descriptions, on a des écrivains hyper célèbres et loués, vraiment, qui ne font que décrire des corps de femmes morts. Et elle renverse ce truc, et ça devient obscène et scandaleux. Au moment où Hélène Zahavi a sorti Dirty Weekend, il y a eu Bret Easton Ellis, il y a eu American Psycho qui est sorti au même moment, je crois. Et enfin, je veux dire, si on se souvient de ce roman, c'est vraiment, vraiment très violent. C'est ce type qui assassine...
Et tout le monde trouvait ça génial.
Ouais, tout le monde a trouvé ça génial. Au-delà de ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Mais alors, on ne peut pas le relire, je trouve, difficilement. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'éprouvant. C'est le début. Je ne vais rien lire d'horrible. Alors... Voici l'histoire de Bella qui se réveilla un matin et s'aperçut qu'elle n'en pouvait plus. Bella n'a rien de particulier. L'Angleterre est pleine de gens blessés, qui étouffent en silence, qui hurlent à voix basse pour ne pas être entendus des voisins. Vous les avez sans doute vus. Vous les avez probablement croisés. Vous leur avez certainement marché dessus. Trop de gens n'en peuvent plus. Ce n'est pas nouveau. Seul compte la façon dont vous réagissez. Bella aurait pu avoir une réaction décente. Elle aurait pu réagir comme les gens décents. Elle aurait pu remplir son petit ventre rond de barbiturique ou bien se jeter avec une belle désinvolture du haut d'une tour. Les gens auraient trouvé cela triste, mais pas inconvenant. « Ah, pauvre Bella !» aurait-il soupiré en jetant ses restes dans la terre à l'aide d'une pelle. « Sans doute n'en pouvait-elle plus, » aurait-il dit. Au moins, avait-elle eu la décence de réagir avec décence. Mais la douleur et Bella ne faisaient pas bon ménage. Elle fuyait la douleur avec l'espoir de lui fausser compagnie. Elle fermait les yeux et retenait sa respiration en espérant que la douleur passerait son chemin. L'idée même de trancher dans la peau pâle et transparente, de coucher son corps nubile sur la voie de chemin de fer qui relie Londres à Brighton, de se pendre au plafond avec un fil électrique autour du cou, n'est-elle pas élégante, odorante, en pendeloque ? Cette idée suffisait presque à priver ces sphincters de leurs moyens. Bref, la douleur n'était pas sa tasse de thé. Peut-être y avait-il une autre raison qui l'empêchait de passer à l'acte. Une raison qui la poussait à continuer, indifférente. Peut-être était-ce l'idée d'avoir vécu et d'être morte, sans laisser de traces. L'idée qu'en mettant fin à sa vie, elle n'aurait jamais eu de passé. L'idée que personne ne connaissait son nom, car même si elle avait une vie médiocre, elle voulait que son nom soit connu. À défaut d'autre chose, elle voulait que son nom, au moins, soit connu. Certaines personnes sont douées pour la vie, d'autres pas. Bella n'était pas douée. Nul ne lui avait jamais appris comment faire, alors elle avançait en trébuchant dans le noir. Elle se heurtait au bon goût. Elle se prenait les pieds dans le raffinement. Elle se cognait la tête contre le mur de briques de la réussite et du bonheur éternel. Elle n'était pas très bonne à ce jeu, mais elle avait appris à être une bonne perdante. Perdre semblait lui convenir. C'était quelque chose de familier, comme une douleur qui a toujours été en vous et qui vous manquera si jamais un jour elle disparaît. Le plus étonnant, c'est qu'elle n'en éprouvait aucune amertume. Elle voulait juste qu'on la laisse en paix. Apparemment, ce n'était pas trop demandé. Elle attendait peu, recevait encore moins, et remercier Dieu de ce qu'il lui a accordé.
C'est vrai qu'il n'y a pas de violence pour l'instant.
Non.
Il y a la violence de la vie qui est là.
Non. Alors il y a la. Oui, et alors il y a les deux dernières phrases du chapitre qui est car Bella ne pouvait pas plier comme il le découvrit, comme elle le découvrit, Bella ne pouvait que rompre. Ça vous annonce la suite. Donc elle va tuer tous les hommes qui l'abordent et qui la harcèlent en fait. Et parfois, franchement, ça va assez vite. Enfin, je veux dire, parfois il suffit de pas grand chose, mais quand même, c'est étonnant l'expérience qu'on vit en lisant ce livre.
Ça me fait un petit peu penser Solanas, non ? Il y a un texte comme ça, c'est le Scum Manifesto, qui propose de tuer tous les hommes.
Oui, sauf que là, c'est un roman. Et que vraiment, elle reste sur... c'est assez classique, en fin de compte. Si vous voulez, vous avez lu bien pire dans plein de polars. Mais là, tout d'un coup, ça fait bizarre.
Ça raconte l'histoire littéraire en retournant la chaussette, quoi.
Ouais, tout simplement.
Lola Lafont... On va vers quel texte ?
On va vers... Alors, est-ce qu'on va vers... Bon, après, voilà, je vais les prendre comme ils sont. On va vers Georges Perec.
Allez.
W. Je l'ai lu tard. Je l'ai lu il y a 10 ans. Pourquoi ? Je sais pas. J'aime énormément Perec, ce qui n'est pas en soi original. On devrait tous aimer Perec. Il m'a vraiment beaucoup appris et puis décoincé. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui ne pourraient pas rentrer dans ce que c'était de, entre guillemets, faire un roman. Mmh. Moi, j'écris pas vraiment des romans, très rarement, en fait, des romans. Enfin, c'est des romans, mais souvent, je les désingue dans La Petite Communiste. Il y a un dialogue qui coupe, un dialogue entre la gymnaste et la narratrice qui coupe la narration. Voilà, j'ai du mal, en fait, à aller au bout de ce qu'on appelle une structure romanesque, entre guillemets, j'allais dire normale, mais plutôt comme au 19e.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et lui, quand j'ai lu W, j'ai fait « Ah, merci
!» Il faut dire pourquoi vous avez dit « Ah, merci », j'imagine, pour des raisons de structure. C'est un texte, un livre très étrange, 1975. Il scinde son texte en deux, d'une manière puissante, troublante, mais qui fait qu'à la fin, on n'a pas tant l'impression d'avoir lu deux choses prodigieusement différentes. On a l'impression d'avoir traversé quelque chose de très puissant, quoi.
Oui, parce que vraiment, il y a deux narrations.
Ouais.
Et qu'il arrive à alterner, et puis qui vont... C'est ça, en fait. C'est pas tellement qu'elles vont s'éclairer l'une l'autre, mais c'est qu'elles sont à la fois hyper éloignées...
Et une.
Et en même temps, indispensables l'une à l'autre.
Mmh.
Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, au-delà de quelque chose comme ça, d'un peu formel, parce que ça pourrait être juste formel, c'est pas forcément intéressant. C'est qu'il y a une nécessité chez lui qui a l'air de présider à tous ses projets. Dans chacun de ses livres, on finit par s'occuper de ce qui n'est plus là, de ce qui a disparu, que ça soit une lettre manquante, des gens manquants, un paysage manquant, une enfance manquante. Donc voilà. Moi, il me touche beaucoup. Et en plus, il avait l'air tellement sympa.
Ouais, super cheveux.
Ouais, j'osais pas le dire, mais on a vraiment envie de dîner avec lui.
Ouais.
Ouais.
Il y a, on va dire, pour simplifier les choses, une partie qui serait fictive et une partie qui serait autobiographique. Vous avez plutôt choisi quel passage, Lola Lafont ?
J'ai choisi un des passages autobiographiques. Je ne sais pas si je n'ai rien à dire. Je sais que je ne dis rien. Je ne sais pas si ce que j'aurais à dire n'est pas dit parce qu'il est l'indicible. L'indicible n'est pas tapis dans l'écriture, il est ce qu'il a bien avant déclenché. Je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d'un anéantissement, une fois pour toutes. C'est cela que je dis, c'est cela que j'écris, et c'est cela seulement qui se trouve dans les mots que je trace et dans les lignes que ces mots dessinent et dans les blancs que laisse apparaître l'intervalle entre ces lignes. J'aurais beau traquer mes lapsus, par exemple, j'avais écrit « j'ai commis » au lieu de « j'ai fait » à propos des fautes de transcription dans « le nom de ma mère » ou rêvasser pendant 2 heures sur la longueur de la capote de mon papa ou chercher dans mes phrases, pour évidemment les trouver aussitôt, les résonances mignonnes de l'Œdipe ou de la castration, je ne retrouverai jamais dans mon ressassement même que l'ultime reflet d'une parole absente à l'écriture. Le scandale de leur silence et de mon silence. Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien. Je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire. J'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
Il faut préciser pour les personnes qui ne connaissent pas la vie de Georges Perec que les ombres dont il parle, ce sont les ombres des Juifs assassinés dans les camps nazis qui ont frappé très durement sa famille et jusque ses liens les plus intimes. Malgré tout, il parle, j'ai l'impression, aussi d'un silence plus général à partir duquel il écrit. Je ne sais pas si on peut le dissocier de la Seconde Guerre mondiale et de l'horreur de la Shoah. J'ai l'impression qu'il dit aussi quelque chose de l'écriture qui serait presque au-delà de cette seule expérience-là.
Oui, parce que vraiment, moi je ne suis pas une spécialiste de Perec, donc j'ai vraiment presque honte d'essayer de faire comme si j'étais en troisième et qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Ce que j'adore chez lui, mais vraiment, et c'est vraiment un projet politique et un projet littéraire, c'est que quand vous écoutez cette langue, il n'y a pas un mot qui est, entre guillemets, compliqué. C'est une langue simple qu'un enfant, il le dit d'ailleurs dans je sais plus quel recueil sur l'écriture, il le dit, j'emploie des mots que tous les enfants pourraient comprendre. Je trouve ça magnifique d'arriver à faire de la littérature sans surplomb. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il considère le lecteur, la lectrice comme quelqu'un qu'il va dominer. C'est quand même quelque chose qui m'est très très cher. Et puis c'est pas intentionnel, il se met pas à hauteur. Mais il offre quelque chose. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et c'est quand même un beau projet, c'est quelque chose. De se servir de mots comme ça. C'est des mots vraiment très modestes.
Absolument. Donc ça, c'est un texte que vous avez lu il y a 10 ans. Vous aviez lu Perec avant.
Oui. J'avais lu Les Choses...
On a vu Espèce d'espace.
Celui-là, je l'ai lu. Je vais vous dire, je l'ai lu au moment où j'écrivais La Petite Communiste. Et ça m'a fait avancer. En fait, on ne verra vraiment pas le rapport entre les deux, à part l'olympisme. Parce que dans la partie fictionnelle, il y a une vision de l'olympisme nazi, en fait. Et vraiment, je sais pas, parce que je peux pas vous dire ça m'a fait écrire quelque chose. Mais il y a des lectures comme ça, quand vous êtes en train d'écrire, qui vous dénouent aussi.
On les prend comme ils viennent?
Oui.
Alors, c'est Le Mur Invisible.
Le Mur Invisible de Marlène Haushofer. Alors là, sacrée rencontre. C'est ma mère qui me l'a conseillé. C'est un livre qui a vraiment eu des sacrés échos dans ma vie parce que il y a 2 ans, j'ai fait avec la metteur en scène Chloé Dabert une adaptation au théâtre du Mur Invisible où j'étais seule avec Maëva Lebert, une violoncelliste. On a joué à Avignon, on a vécu une très belle aventure avec Le Mur Invisible. Donc il m'a suivie. Je vais me faire un petit résumé, peut-être.
Oui.
Raconter un peu.
Bah oui, je veux dire.
Le Mur Invisible, finalement, c'est un couple qui va en montagne chez des amis. Et puis, dans la maison, il y a un chien. C'est en montagne, loin, enfin, très haut. Et le matin, quand le personnage principal se réveille, son mari est parti faire des courses la veille. Il n'est jamais rentré. Et quand elle sort avec le chien se cogne à un mur invisible qui entoure le paysage et elle comprend que derrière ce mur, tout le monde probablement est mort, y compris les animaux. Et elle va rencontrer un peu plus tard une vache, et même 2 d'ailleurs je crois, et survivre. Et alors ça pourrait sembler cucu et puis plein de choses comme ça, mais ça l'est pas du tout. C'est écrit comme un faux journal intime, c'est sa survie et c'est la façon dont elle va faire face à sa solitude et trouver une sorte de puissance dans cette solitude. Et il y a le personnage du chien qui est extraordinaire. Je crois que je parle un peu trop de chien depuis tout à l'heure. Non, il y a eu William Wegman.
Ah, oui.
Mais oui. Bon. Et voilà. Et donc, ça, c'est le début.
C'est un texte qui est paru en 1963 en Autriche,
ouais,
et qui a été traduit en 1985 pour les éditions Actes Sud par Liselotte Baudot et Jacqueline Chambon, et qui existe vraiment en version de poche. Il a eu un succès fou, relancé aussi par vraiment les réseaux sociaux et un engouement incroyable. Et donc, c'est paru chez Babel, et je crois que c'est vraiment une poudre. Ouais, c'est vraiment une poudre de feu, quoi. C'est incroyable, cette histoire.
Ouais. Il y a eu un film aussi qui est franchement pas mal du tout. Qui suit très très fidèlement le livre, et franchement pas mal.
C'est le début.
C'est le début. Alors, aujourd'hui, 5 novembre, je commence mon récit. Je noterai tout, aussi exactement que possible. Pourtant, je ne sais même pas si aujourd'hui est bien le 5 novembre. Au cours de l'hiver dernier, quelques jours m'ont échappé. Je ne pourrais pas dire non plus quel jour de la semaine c'est, mais je pense que cela n'a pas beaucoup d'importance. Je n'ai à ma disposition que quelques rares indications, car il ne m'était jamais venu à l'esprit d'écrire ce récit, et il est à craindre que dans mon souvenir, bien des choses ne se présentent autrement que je les ai vécues. Ce défaut est sans doute inséparable de tout récit. Je n'écris pas pour le seul plaisir d'écrire. M'obliger à écrire me semble le seul moyen de ne pas perdre la raison. Je n'ai personne ici qui puisse réfléchir à ma place ou prendre soin de moi. Je suis seule et je dois essayer de survivre au long et sombre mois d'hiver. Il est peu probable que ces lignes soient un jour découvertes. Pour l'instant, je ne sais pas si je le souhaite. Je le saurai peut-être quand j'aurai fini d'écrire ce récit. J'ai entrepris cette tâche pour m'empêcher de fixer, les yeux grands ouverts, le crépuscule et d'avoir peur. Car j'ai peur. La peur de tous côtés monte vers moi et il ne faut pas attendre qu'elle m'atteigne et me terrasse. J'écrirai jusqu'à ce que la nuit tombe et jusqu'à ce que ce travail dont je n'ai pas l'habitude me rende somnolente, la tête vide. Ce n'est pas le matin que je crains, mais les longs après-midi ténébreux. Je ne sais pas au juste quelle heure il est, sans doute autour de 3 heures. J'ai perdu ma montre, mais de toute façon elle ne m'était pas d'un grand secours. Une minuscule montre bracelet en or, le genre de bagatelle précieuse à qui il ne faut pas demander de donner l'heure exacte. Je possède un stylo à billes et 3 crayons. Le stylo à billes est presque vide et je n'aime pas écrire au crayon. Les mots ne se détachent pas assez bien du papier. Les fines hachures grises disparaissent dans la couleur jaunâtre du fond, mais je n'ai vraiment pas le choix. Alors ce qui est drôle, c'est que donc ça a été une adaptation. Et là, ça, c'était le début du spectacle. Et donc, je n'avais pas le livre, je savais tout par cœur. Et là, en le lisant, je ressens le train que j'ai eu à Avignon. Mais un truc de malade, en fait. Vraiment, je me disais, là, en gros, tu es dans le noir. Tu n'as pas le livre, t'as pas. Si tu ne le sais pas, les gens vont rester comme ça, devant toi. Vous allez tous rester face à face. Il se passera rien.
En même temps, c'est un texte où il est tellement question, dans ce début en tout cas, de la nécessité des mots, de la nécessité d'écrire, de sa survie liée à ça, que, ouais, en effet, s'il n'y a pas les mots, il ne se passera rien. Du reste, Lola Lafont, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que de 3 manières différentes jusqu'à maintenant, que ce soit chez Pérec, que ce soit dans Le Mur Invisible, ou que ce soit avec le premier texte de Pierre Goldman, qui se demande est-ce que c'est possible de dire et qui ne fait que cela. En fait, vous avez aussi choisi des textes qui parlent beaucoup de l'impérieuse nécessité d'écrire.
Je m'en suis rendu compte quand je vous ai envoyé les extraits. Et quand on terminera, enfin, il y a autre chose qui se dégage, en fait, c'est la notion de rythme. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pas choisi d'auteurs qui ont la phrase... voilà. Et même, vous voyez, une sorte de... c'est des gens qui coupent. Et je crois que je suis très sensible à ça, en fait, à la rythmique et à la percussion, quoi, en fait, des mots. J'ai vraiment beaucoup de mal avec une écriture. C'est comme si l'eau coulait d'un robinet. Alors ça, j'étouffe, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus torrentielle, plus...
Mais tendue, plus tendue. Tendue.
Ouais, ouais. Et là, pendant que je lisais, je me disais, ben oui, elle pose une vraie question. Je n'écris pas pour le seul plaisir d'écrire et m'obliger à écrire me semble le seul moyen de ne pas perdre la raison. C'est une vraie question. C'est troublant pour l'autrice elle-même, Marlène Haushofer, parce qu'elle a eu un drôle de parcours. C'était une femme au foyer autrichienne dans les années 50, mariée à un dentiste, qui écrivait la nuit dans sa cuisine. Et on a la tentation, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais on a vraiment la tentation de se dire que c'est elle qui parle. Et je pense que la force de ce roman, c'est que cette histoire de mur invisible, qui est très post-apocalypse nucléaire des années 60, enfin tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment une femme qui est seule et qui va trouver, d'abord dans le rapport aux animaux, qui est très très fort, et qui va, elle sait rien faire. Moi, je m'identifie beaucoup, parce que si j'étais seule dans la montagne, je serais vraiment, ce serait une calamité. Et ce qui est génial, c'est que c'est une anti-héroïne, c'est-à-dire que, non, elle sait pas allumer un feu tout de suite, elle sait pas, et elle doit apprendre, elle se blesse, et voilà, et une sorte c'est un roman d'apprentissage.
Donc il nous reste deux textes à évoquer avec vous, Lola Lafont, on a Christina Rivera Garza,
France Culture,
ou
le Book Club,
Joyce Carol Oates, dont on a beaucoup parlé,
dans la bibliothèque de Lola Lafont.
On peut lire les deux.
Ouais, ok.
Marie Richeux.
Donc on commence par Joyce Carol Oates.
Oui. Blonde.
Blonde.
Une fois dans Fifth Helena, la mort pédala plus lentement. La mort loucha sur les numéros. La mort n'avait accordé qu'un regard au paquet si bizarrement libellé, si bizarrement enveloppé dans un brillant paquet cadeau à rayures type sucre d'orge, un paquet cadeau du genre qui a déjà servi, avec un nœud en satin blanc acheté tout fait, scotché dessus. Le paquet, 25 x 20 x 20 cm, ne pesait presque rien. Vide ? Bourré de papier de soie ? Non. Quand on le secouait, on sentait qu'il y avait quelque chose dedans. Quelque chose aux angles émoussés, en tissu peut-être. Alors, en début de soirée, en ce 3 août 1962, vint la mort, index sur la sonnette du 12-305 Fifth Helena Drive, la mort qui essuyait la sueur de son front avec sa casquette de baseball, la mort qui mastiquait vite, impatiente, un chewing-gum, pas un bruit à l'intérieur. La mort ne peut pas le laisser sur le pas de la porte, ce foutu paquet, il lui faut une signature. Elle n'entend que les vibrations ronronnantes de l'air conditionné. Ou bien, est-ce qu'elle entend une radio, là ? La maison est de type espagnol, c'est une hacienda de plein pied. Mur en fausse brique, toiture en tuiles orange luisante, fenêtre au store tiré. On la croirait presque recouverte d'une poussière grise. Compacte et miniature, comme une maison de poupée. Rien de grandiose pour Brentwood. La mort sonna à deux reprises, appuya fort la seconde. Cette fois, on ouvrit la porte. De la main de la mort, j'acceptais ce cadeau. Je savais ce que c'était, je crois, et de la part de qui c'était. En voyant le nom et l'adresse, j'ai ri et j'ai signé sans hésiter.
Bon, on peut dire qui dit « je » dans ce texte de Joyce Carol Oates.
C'est Norma Jean Baker, c'est Marilyn Monroe. C'est un livre qui a eu une grande importance, en fait, pour moi. Encore une fois, un livre qui ouvre des tas de possibilités. Je pense que j'avais déjà lu quelques livres de Joyce Carol Oates. Mais là, l'ampleur du projet, finalement, c'est une vraie fausse biographie. Quand je dis vraie fausse, c'est important, c'est-à-dire que oui, elle passe chaque étape de la vie de Marilyn Monroe, mais en même temps, elle ajoute des choses qui probablement ne sont pas réelles, qui ont une grande importance. Des choses pas réelles qui éclairent la vraie personne. C'est ça, c'est pas une définition de la littérature. Elle fait ça, c'est extraordinaire, parce que finalement, ce qu'elle invente est essentiel.
Au service
au service du personnage, totalement. J'ai l'impression qu'il y a dedans... une scène de viol qui est aussi phénoménale, parce que c'est très dur d'écrire des scènes de violence sexuelle sans devenir pornographique et sans en faire quelque chose de tout à fait contraire au projet qu'on avait. Et il y a une page ou deux sur Marilyn qui vient dans le studio d'un d'un grand directeur de studio. Et la seule chose qu'elle décrit, c'est la moquette qu'elle voit et ses genoux dessus. C'est tout. Et ça m'a beaucoup marquée par là où elle place son regard, en fait. Alors, on parlerait de female gaze, quoi, vraiment. Imaginez tout ce qu'on pourrait écrire d'épouvantable, quoi. En plus, sur Marilyn, qu'on a tellement filmé. Et c'est un projet fou, parce qu'elle va la regarder encore autrement. Moi, je pense que, voilà, c'est fou qu'elle ait pas le Nobel. Pour ça, voilà, c'est un projet très... très fort aussi pour ce que c'est, puisqu'on est aussi dans un moment où à la fiction, on demande d'être réel. Souvent, on est vraiment sur... je pense à cette phrase qu'on voit quand on va au cinéma, tiré de faits réels. Hein. Donc, on a l'impression que ça a un tout petit peu contaminé la littérature. Parfois, c'est pour des choses très intéressantes. Parfois, vous avez envie de dire, mais est-ce que c'est vraiment la question qu'on doit se poser ? Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle manipule cette idée dans tous les sens, en fait.
Cette fois, c'est le dernier.
C'est le dernier. Alors ça, c'est une belle rencontre. C'est vraiment une belle rencontre. C'est un roman qui a été publié en septembre, Cristina Rivera Garza. Et en fait, je l'aurais peut-être raté si je n'avais pas été, je vais mettre des guillemets, présidente du prix des Inrocks. Parce que je l'avais eu l'année d'avant. Et que donc, j'ai lu énormément l'été dernier. Je suis partie avec ma liseuse remplie de 60 bouquins. Et donc, il y avait un côté un peu impitoyable où vous enchaînez les livres et puis c'est un peu horrible, c'est-à-dire ceux qui ne résistent pas, vous faites non. Et tout d'un coup, je ne me rappelle pas d'avoir vu la couve, le nom ne me disait rien et tout. L'invincible était Liliana. Et je l'ouvre et je me dis, oh là, là, il se passe un truc. Et après, je cherche et je vois que Cristina Rivera Garza est très connue au Mexique. On est terriblement auto-centrés hein, dans la littérature. Et que ce livre, c'est l'histoire de sa sœur, Liliana, victime d'un féminicide au Mexique dans les années 90, et elle refait l'enquête. Et en refaisant l'enquête, vraiment, hein, en allant voir tous les gens qui ont su, n'ont pas su, les pièces du dossier, etc., elle retrace un portrait de sa sœur qui est bouleversant. Et à la fin, vous avez vraiment l'impression d'avoir eu la chance de passer un moment avec sa sœur. Voilà. Donc... Oh la vache, je sais plus. Ok. Nous sommes dans l'après, et l'après dure longtemps. Le lendemain de notre visite au tribunal de Mexico pour tenter d'obtenir une copie de l'enquête préliminaire, je me rends au cimetière en compagnie de mes parents. Nous sommes le 4 octobre. Liliana a passé beaucoup plus de temps sous terre qu'elle n'a vécu sur la terre. Elle aurait eu 51 ans. Elle a 51 ans. Balance, ascendant Capricorne, un coq dans l'horoscope chinois. Nous sommes là tous les trois, de nouveau rassemblés, pour célébrer sa vie et sa mémoire. Nous apportons avec nous une petite bêche pour désherber sa tombe, sur laquelle il y a si longtemps nous avons choisi de placer une simple pierre de carrière, avec, dans la partie supérieure, gravé, son nom et les dates de sa naissance et de sa mort. Et nous apportons aussi les seaux en plastique pour arroser les fleurs que nous achetons comme nous le faisons depuis 30 ans dans le même kiosque au bord de la route. En dehors du cimetière, nous paraissons parfaitement normaux. De l'autre côté du portail de fer forgé, de plus en plus rouillé, nous marchons et nous mangeons, nous saluons des connaissances, nous célébrons des victoires, nous présentons nos condoléances, nous assistons à des cours, à des fêtes. Là-bas, les vies qui ont continué se promènent, les carrières, les livres, les voyages, les anniversaires, les enfants. Mais ici, sous l'effet de l'air qui balaye les pics du volcan, pour venir effleurer l'intérieur de nos poumons de ses ailes froides, méditatifs, ici, nous sommes pur chagrin. C'est un mensonge de dire que le temps passe, le temps est grippé. Il y a un corps inerte ici, coincé entre les boulons et les charnières du temps, qui suspend son rythme et son écoulement. Nous n'avons pas vieilli, nous ne vieillirons jamais. Nos rides sont artificielles, indices de vie que nous aurions pu vivre, mais qui sont partis ailleurs. Les cheveux blancs, les caries, les os fragiles, les articulations engourdies, de simples pauses qui occultent la répétition, la redondance, le refrain. Nous sommes enfermés dans une bulle de culpabilité et de honte, et nous nous demandons continuellement qu'est-ce que nous n'avons pas vu ? C'est cela l'écho. La lumière du soleil est toujours spectaculaire en automne. Pourquoi nous n'avons pas pu la protéger ? Le murmure des Oyamel, la clarté des pins. Lisez-la. Lisez-la.
Ça vous arrive souvent de découvrir une voix comme ça ?
Mais non. Je trouve que c'est très rare. C'est très rare et... Alors quand ça m'arrive, je deviens complètement obsessionnelle. Du coup, tout le monde reçoit le même livre autour de moi. Et elle a eu le prix des Inrocks. Mmh. Roman étranger, pour vous dire que... Voilà, je suis heureuse. Ouais.
Merci beaucoup. Merci pour ce texte-là et pour tous les autres que vous avez partagés avec nous, Lola Lafont. Merci beaucoup.
Merci.
On sort de votre bibliothèque ?
Ouais.
Ouais.
Merci.
De rien, Laurent. Ça a été dur de choisir.
Oh là là, j'imagine.
C'est curieux.
Un territoire à creuser.
Ouais.
Bon, on y va alors. Hein.
C'est parfait.
Oui. Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Toutes les références des textes cités par Lola Lafont sur franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi la page sur laquelle vous pouvez réécouter ou écouter tous nos portraits de bibliothèque. Au son, à l'extérieur, c'était Frédéric Kérou. Au mixage, à l'intérieur, c'était Anthony Thomasson. À la réalisation de cet épisode, Félicie Faugère. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
Frightened by my feelings, I only wanna be a relief. No, I'm not a go-getter. The demon had a spell on me. My black shroud, captain of my feelings, the only thing I wanna believe. And when I feel that empty.